pas causer, veulent pas causer, veulent pas dire ce qu'ils ont dans le coco. Ah les sales gosses, ah les sales enfants, veulent pas dire ce qu'ils ont dans le coco. Ah ah ah, l'IMP, ah l'IMP, ah l'IMP, y'a des sales gosses, ils veulent pas dire ce qu'ils ont dans le coco. Ah là 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 là, ah ah, ah les enfants, ah les enfants.
Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Liberté 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Dominique Allemand, vous avez vraisemblablement pu déduire, compte tenu de la vitesse et de l'agressivité de la musique, qu'on était bien le dimanche où je suis là, pour votre plus grand plaisir, je l'espère, ou déplaisir après tout, pourquoi pas. C'est pas forcément une musique toujours très audible. Aujourd'hui, une émission à thème. Alors, je me suis fait un petit peu plaisir, puisque bon, c'est les vacances, comme qui dirait. Enfin, pas encore pour moi, mais voilà, conceptuellement. Une émission donc consacrée au hardcore suédois. Alors, lâcher comme ça, ça peut paraître un peu pointu, si ce n'est exotique. Solliciter l'homme de la rue, c'est de parler de hardcore suédois. Je pense que ce qui va lui venir en premier à l'esprit, ce sera pas des Vestaclou et des gamins qui jouent de la musique très rapide. Et pourtant, dans le microcosme, et pourtant très étendu du punk hardcore DIY, quand on parle de hardcore suédois, on parle pas seulement de groupes de hardcore qui sont de Suède, mais bien d'un style. Voilà. Parce que c'est pas. Voilà, c'est pas. D'ailleurs, il y a plein de groupes de hardcore suédois qui ne sont pas suédois. Hein. Je vais en parler un petit peu après. Donc voilà, le hardcore suédois, il faut le considérer comme étant quelque chose de stylistique plutôt que de purement géographique. Voilà, à l'instar de quelques autres types de hardcore. Hardcore italien, hardcore finlandais, hardcore japonais, tout ça, ce sont à la fois des styles et des zones d'origine, en tout cas au moment où ces styles-là se sont forgés. Mais on peut très bien trouver des groupes de hardcore italien aux États-Unis, des groupes de hardcore finlandais au Brésil et des groupes de hardcore suédois au Japon. Bon, au Japon, de toute façon, on trouve tous les styles. Hein. Y a bien Cold Punk français qu'ils n'ont pas encore osé faire. Je les en remercie. Voilà, donc mais nous on va se concentrer quand même sur ce qui se faisait un peu dans cette partie de la Scandinavie, comment s'est formé c'est structurer ce style et qui va très rapidement devenir style. Hein. Voilà, peut-être comparé à d'autres écoles, peut-être de par la similitude qu'il y a entre beaucoup de groupes de hardcore suédois dans les années 80 notamment. Toute cette série de points communs fait que ça devient pertinent de dire que c'est un style. Alors ça se fait de façon assez fluide. En règle générale, hein, y a personne qui se lève un matin et qui dit voilà, maintenant c'est du hardcore suédois, c'est un vrai style à part. Mais voilà, même rétrospectivement, c'est très très clair que beaucoup de groupes utilisent la même formule. Bon, parfois des copier-coller tout à fait honorables, en tout cas moi, qui me conviennent parfaitement. Et ce qui fait que 40 ans après, un peu plus maintenant, quand on dit hardcore suédois à quelqu'un qui écoute un peu de punk, etc., il va tout de suite à peu près identifier ce que c'est, que ce soit en termes de durée, d'agressivité, de rythmique. Voilà, il y a tout de suite une image, normalement, qui va se créer, une image mentale. Bon, là, je parle pour les gens qui connaissent un petit peu, évidemment. Mais voilà, tout ce beau laïus pour dire qu'on n'est pas seulement sur de la géographie. Donc, le style hardcore suédois hyper populaire. Depuis sa création, hein. Et peu à peu, donc, on va trouver des groupes de hardcore suédois un petit peu partout dans le monde, jusqu'en Indonésie, il y en a beaucoup, clairement. Mais là, donc, l'émission, elle va être chronologique, donc on a les 8 premiers morceaux, vont être sur les années 80. Donc les 4 premiers que j'ai sélectionnés, on est sur du classique de chez classique. Alors évidemment, sur une émission de 90 minutes, voilà, j'aurais clairement pas le temps, juste sur les années 80, j'aurais pu vraisemblablement faire toute l'émission dessus. Mais voilà, je voulais pas non plus vous bassiner avec 20 fois exactement le même morceau enregistré exactement au même moment. Je préfère mettre exactement le même morceau, mais enregistré à divers points dans le temps. Voilà, c'est quand même plus sympa. Donc, le premier groupe qu'on a écouté, peut-être le groupe poids lourd le plus connu, le plus iconique, comme disent les jeunes sur TikTok, Anticimex, donc groupe qui s'est formé en 81. Anticimex, ça veut dire les simex, c'est les nuisibles, c'est les parasites, les cafards, etc. Et donc, sur beaucoup de vannes de gens qui sont dans la dératisation, par exemple, en Suède, on trouve marqué Anticimex. Voilà, ce qui est assez rigolo quand on connaît la popularité du groupe. Alors, je pense que la majorité des dératiseurs n'ont absolument rien à secouer, mais voilà, ça s'apprête quand même à sourire. Donc, le morceau qu'on a écouté, c'était War Machine, un des morceaux les plus connus. Anticimex, c'est typiquement le groupe qui a créé le style. Voilà, c'est dans les pionniers, clairement. Le premier groupe, savoir qui est le premier groupe de hardcore suédois, moi ça m'intéresse jamais trop ces choses-là, mais en tout cas, voilà, si on dit hardcore suédois, les premiers EP d'Anticimex, c'est clairement les choses qui vont revenir vraiment sur le haut du panier. Là, c'est un extrait du deuxième EP, Raped Ass, qui est sorti en 83. Et c'est un petit bijou, ce morceau. Hein. Il y a très peu d'accords, hein, le couplet, c'est deux accords. Avec une batterie qui tabasse comme s'il y avait une pluie de météores qui ravageait le pays. Moi, j'adore le son de la batterie, hein, sur ce EP, je le trouve complètement ouf. Avec un chant arraché, plein de souffrance, voilà. C'est un EP parfait, avec des solos de guitare, hein, qui en sont assez particuliers. Très en avant, le solo est vraiment mis très très devant. Ça fait un peu la marque, hein, de ce groupe. Évidemment, le hardcore suédois est très influencé par Discharge, hein. Voilà, le groupe, le punk anglais, le hardcore anglais, on pourrait appeler ça. Du début des années 80, hein, les Discharge, les Varrockers, les Chaos UK, voilà, tous les groupes qui commencent vraiment à aller vite. Quelques groupes de hardcore ricains, évidemment. Mais voilà, l'influence majeure de tous ces groupes-là, c'est quand même essayer de jouer plus vite que Discharge. Je caricature un petit peu, mais on peut plus vite que Discharge, ou que les Varrockers, ou que les groupes post-Discharge. Donc, et ils le font très bien. Hein, clairement, les Suédois arrivent à accélérer d'une manière folle. Alors, pourquoi ? Alors, en Suède, c'est facile. Enfin, c'est facile, c'est pas que c'est facile, mais il fait froid. Une bonne partie de l'année, il fait froid. Et les mômes, les gamins, quand il fait froid, ils s'emmerdent un peu, ils peuvent pas trop sortir. Et beaucoup de mairies, toutes les mairies mettent à disposition des salles de répète gratos, accessibles. Voilà. Donc forcément, les gamins, ils apprennent très vite à faire de la musique, à essayer des trucs. Et ça explique qu'il y a un nombre de groupes de punk complètement dément en Suède, et de métal. Alors, on peut même pas parler du métal. Donc, il y a des gamins de 16 ans, les années 80, qui sortent déjà des classiques de chez classiques et qui jouent déjà hyper bien. Voilà, quand on compare avec la France et les galères de MJC ou de studios de répète hors de prix, voilà, c'est des cultures différentes, mais donc les conditions de production de la musique sont-elles, ça favorise quand même la naissance du punk en Suède et sa diffusion, bien entendu. Voilà, donc Anticimex, groupe qui a existé jusqu'en 92 à peu près, 93, qui a changé de line-up assez souvent, qui était un petit peu là, ils sont déplacés de ville en ville au gré des nouveaux membres qui arrivaient et qui partaient. Et voilà, sur la fin, évidemment, le son n'est pas tout à fait le même, hein. C'est un petit peu plus lourd, c'est un peu plus rock, mais c'est toujours très bien. Anticimex, même le tout début 81, bon, c'est un peu bancal, mais c'est quand même pas mal de charme, c'est très très 80. Et en 90, ils inventent quasiment un autre style, toujours dans le hardcore, mais un peu plus gras, un peu plus lourd, avec un peu de Motorhead, etc. Voilà, c'est vraiment, il y a rien à jeter, hein, dans ce groupe, et c'est très très justifié qu'ils aient cette aura, hein, pour eux. Derrière, autre groupe culte, alors là par contre, contrairement à Anticimex, ils n'auront enregistré ce groupe que 8 chansons dans toute leur existence, et c'est des chansons d'une minute, voire moins. Le morceau qu'on a écouté durait 50 secondes. Il s'agit des Shit Lickers, les lécheurs de caca. Alors, si vous êtes un peu un snob, j'allais dire Ruit Lickers, parce que la merde, ça se dit pas shit, hein. En suédois, ça se dit Ruit. Donc voilà, pour les snobs, on peut dire Ruit Lickers, ça fait un petit coup, un côté un peu cool. Morceau War System, deux accords. Alors là, on est encore plus simple que Anticimex. Deux accords, hein, avec une voix complètement démente. C'est voilà, tiré d'un EP qui s'appelle GBG 82. GBG, c'est vers Göteborg, c'était basé à Göteborg. Ultra culte, il y a 4 minutes de musique, 4 morceaux. C'est, voilà, c'est un morceau complètement dément, avec une production hyper crue, hyper agressive. C'est un espèce de petit ovni, hein, ce groupe-là, sorti en 82. En 82, il n'y a pas beaucoup de groupes qui sonnaient comme ça. Voilà, donc c'est un petit miracle, tout simplement, fait par des mômes de 16 ans avec plein de boutons sur la gueule. Bon, groupe méga culte, Anticimex, la masse, la discographie, l'influence est terrible et logique. Shit Lickers, c'est un peu plus pointu. Il y a plein de groupes derrière qui vont prendre Lickers, hein, dans leur nom, Dis Lickers, Total Lickers, ouais, tout un tas de clins d'œil, même juste Lickers d'ailleurs, à ce groupe-là, à ce son-là. Bon, voilà, c'est du punk, du hardcore à l'état le plus brut qu'on puisse trouver. Donc c'est forcément un groupe qu'il faut passer, qui n'est pas forcément le plus représentatif du style hardcore suédois. Parce qu'il est tellement simple qu'on est, voilà, on est vraiment sur du truc d'homme des cavernes, mais c'est impossible de ne pas le passer. Puis voilà, c'est quand même un morceau qui va hyper rapide, hein, pour 82. Derrière, je reviens rapidement à Shit Lickers. Le premier bassiste de Shit Lickers a... plus tard, rejoint Anticimex. Voilà. Donc, il y a une petite connexion entre les deux. Ensuite, on a écouté Asocial, un groupe qui a été très actif peu de temps dans les années 80, entre 84 et 86. Alors bon, assez typiquement des années 80, les groupes sont adolescents, donc ils font beaucoup de choses en une très petite période de temps, en règle générale. C'est le moment où on a du temps déjà, hein. On a de l'énergie, et on enregistre, on tourne, etc. Mais beaucoup de ces groupes ultra légendaires, en fait, ne vont pas exister forcément très longtemps dans le temps, dans les années 80. Ça, c'est pas que la Suède, c'est partout, hein. On est souvent sur des courtes périodes, mais qui vont avoir un impact démesuré, hein, pas sur ce qui va suivre, hein, par rapport à ce que concrètement ils ont, la période dans laquelle ils ont évolué de façon réelle, hein. Donc Asocial, voilà, encore un des noms un peu classique. Alors j'ai choisi un morceau qui est de 86. Alors ils existaient un petit peu avant, tout simplement parce que leur période 86 sur la fin, on est vraiment plus sur du hardcore suédois typique. Avec, voilà, ce petit côté dischargien qui galope, un peu plus rapide. Voilà, ça coche toutes les cases, la voix arrachée, morceaux courts. C'est assez sombre, mais c'est cru. Voilà, on n'est pas du tout sur du hardcore ricain propre. Hein, moi, c'est toujours ce qui m'a un petit peu... pas tout à fait convaincu, hein, dans beaucoup de groupes ricains, étaient trop propres pour moi. Et moi, j'aime bien le côté un peu sale et agressif. Et sur les groupes années 80 de Suède ou d'Italie, je retrouve cette sensation-là. Et voilà, pour moi, c'est vraiment comme ça que ça doit se faire. Le morceau social, c'est How Long. Paradoxalement, c'est même plutôt une exception quasiment unique. Asocial, ils commencent plus vite qu'ils ne finissent. C'est-à-dire que la première démo d'Asocial, qui s'appelle Asocial Attack, c'est, qui est enregistré en 84, c'est d'une vitesse et quasiment du grindcore en termes de, du, en termes de rapidité de la batterie. Ça a beaucoup influencé Napalm Death, hein, mais c'est deux ans avant Napalm Death, avant le blast beat de Napalm Death, et c'est complètement dément. Voilà, des morceaux d'une seconde, ultra primitif, mais hyper, hyper rapide, hein, même pour la Suède. Voilà, je ne sais pas, alors est-ce qu'ils avaient un batteur complètement sous speed ce jour-là ? Il faudra leur demander, je ne sais pas. Ils sont actifs, Asocial, il y a une reformation. Voilà, le chanteur est toujours resté dans la scène, hein, il chante dans Uncurbed depuis très longtemps. Donc, intéressant. Là, le morceau qu'on a écouté, How Long, c'est tiré d'un EP qui s'appelle Religion Sucks. La religion, ça pue, ça, c'est complètement intemporel. Et derrière... avec Anti-Symax, peut-être le groupe de hardcore suédois auquel on pense spontanément quand le mot vient sur la table. Mob 47, voilà, trio de Stockholm, là encore avec une vitesse complètement furieuse et un son très très particulier, de morceaux courts avec des riffs hyper entraînants. Moi je suis très fan, hein, de la guitare de Mob 47, je trouve les riffs de guitare, les accords hyper dynamiques. Avec la vitesse, ça donne un espèce de côté un peu morveux, énergique, qui est complètement fou. Et les parents du guitariste-chanteur de Hake étaient propriétaires d'un bowling. Et en fait, le groupe enregistrait dans le bowling, et c'est ce qui explique la production un peu particulière, le son qui résonne un petit peu comme ça. Et bon, voilà, ce groupe fantastique qui existe encore, hein, voilà, que j'ai eu le plaisir de voir plusieurs fois, que j'ai organisé à Paris il y a 10 ans. Avec le camarade Papy, à qui on fait une grosse pensée. Ça aurait été son anniversaire hier. Voilà. Donc, grosse pensée pour lui. Il avait organisé Mob 47 avec moi. Enfin, on l'avait fait tous les deux. Donc, c'était voilà, quelque chose d'assez important pour lui. Morceau qu'on a écouté, donc, c'était Dumb Luger, sorti de leur EP de 84. Et alors, malgré leur. Enfin, malgré, je ne sais pas, le groupe très très populaire, mais qui a sorti finalement qu'un seul EP. Dans les années 80, des enregistrements de démos, il y en a, etc. Mais qui, sur la force de ce EP, est devenu quand même assez connu. Alors, il y a leur inclusion sur la compile Peace, hein, compile internationale sortie par Maximum Rock'n'Roll en 84, hein, qui a clairement joué dans la popularité du groupe. Mais voilà, malgré tout, la vitesse de la batterie, l'espèce d'énergie complètement adolescente, complètement démente, fait que c'est un des meilleurs groupes de hardcore de l'histoire, il n'y a aucun souci. Ils ont sorti un album l'année dernière, ou cette année même, qui est super bien. Voilà, alors, ça n'a pas changé au niveau du style, ils vont toujours aussi vite. Donc ça force clairement le respect. On va repartir sur du hardcore suédois du fond des bois et du fond des années 80, parce qu'on a pas mal de choses à se dire encore. We'll be right back. Vous êtes toujours sur LVRTR 4.4, c'est l'émission Détruire l'ennui, ou que je parle fort. Une émission consacrée au hardcore suédois, au travers les âges, à partir de 82 en gros. Hein. C'est pas non plus un style qui est né au 16e siècle. On avait fait une première salve de 4 groupes des années 80, des groupes plutôt fondateurs. On poursuit avec encore une fois des noms... pour certains, peut-être un peu plus obscur. Et surtout, dans le cas des deux premiers groupes, des groupes influencés par du Anti-Cymex, du Shitlickers. Hein, ou, voilà. Des groupes qui, je pense, ont écouté ça et se sont dit « Ah tiens, on va essayer de faire un petit peu pareil. » Ce qui est tout à fait normal hein, quand on est un jeune punk, d'être influencé par les gens beaucoup plus vieux, c'est-à-dire qu'on a un ou deux ans de plus. On a commencé avec Sound of Disaster, ou SOD, pour les intimes, avec le morceau Stilled Veld, sorti donc en 85. Groupe assez culte, carrément culte, mais un peu plus pour les initiés. Hein. Voilà, Sound of Disaster, c'est pas des gros noms du style comme Anti-Cymex ou Mob 47 ou un groupe comme Afskoum qu'on passera après, mais pour leur période récente. Hein. Je parlerai un petit peu plus de ça plus tard. C'est pas le grand nom, mais c'est hyper qualitatif. EP hyper dur à trouver, évidemment. Ils ont été réédités récemment, Sound of Disaster. Il y a une discographie qui est très chouette, qui existe. Hormis ce EP-là, en 90, ils ressortent un deuxième EP qui s'appelle Speak Swedish or Die sur le label Really Fast. Really Fast, qui était le label de quelqu'un de Head Cleaners, qui est un autre groupe de hardcore suédois que j'aime bien, mais sans plus, mais qui sortait des groupes Really Fast, donc hyper, hyper rapide. Et donc, c'est toute une frange un peu plus underground du hardcore suédois, plus 80, entre 86 et la fin des années 80. Et notamment, des groupes comme G-Angs ou des groupes comme ça vont pour la première fois sortir des morceaux. Donc, ils ont des compiles. Hein. Really Fast, je crois qu'il y en a 3 volumes, j'ai pas vraiment révisé ça, me semble-t-il, et voilà, elles sont top. Hein. Si vous aimez le hardcore rapide et cru, c'est super. Et donc, Sound of Disaster, voilà, apparaissait. On sortit un EP en entier sur Really Fast, et ils ont dû d'ailleurs apparaître sur une des compiles. Ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas. Alors, Head Cleaners, c'est Ovudvat, je crois, en suédois. Alors, beaucoup de groupes suédois chantent en suédois. Moi, je me suis quand même un petit peu efforcé de trouver des morceaux. Où le chant est en suédois, je trouve ça plus cool. Hein, je trouve ça marche bien, mais beaucoup de groupes font un peu de l'anglais, un peu du suédois. Ils parlent bien anglais là-bas, donc c'est pas hyper gênant. Et les deux langues sont assez proches au final également. Voilà. Après Sound of Disaster, on a eu peut-être l'archétype du groupe de hardcore suédois des Cavernes. Alors je dis beaucoup de hardcore suédois, ça c'est vraiment le terme français. À l'international, alors il y a un mot qui existe qui s'appelle Keng, K-A avec l'espèce de petit rond au-dessus du non, c'est un tréma, non, c'est un tréma, donc K-A tréma N-G, donc ça désigne ce mot-là, désigne tout simplement ce style hein, de hardcore suédois. Il y a aussi le mot mangle qui existe, qui désigne mangle, je trouve que ça veut dire bruit, donc ça désigne peu ou prou la même chose. Mais voilà, si on veut utiliser un petit peu le terme idiosyncratique, hein, voilà, local, hein, si vous voulez, on dirait plutôt Keng, K-A-N-G. Mais Scandicore hein, existe aussi. Aux États-Unis, c'est assez utilisé. Hein, Scandi comme Scandinavian, Core comme Hardcore. Voilà, peu importe comment, le mot qu'on utilise vraiment, parce qu'il y a la même chose derrière. Mais voilà, dans le cadre de l'émission, des trucs l'ennui, je pense que. Voilà, Keng, ça fait un peu snob. On va rester sur du hardcore suédois. Hein. Moi, ça me va très bien en tout cas. Mais sachez qu'il est, il a plusieurs noms. Voilà, c'est un peu comme le diable. Hein. On peut l'appeler c'est avec plusieurs expressions. C'est mieux que le diable. Donc voilà, Svartparad, groupe d'hommes des cavernes. Très mal enregistré. Seulement des démos. Ils n'ont jamais sorti de vrai EP pendant leur existence. Le morceau qu'on a écouté, c'était Kriget. Erar, groupe culte, du fait de son son hyper cru, hein, avec un chant hyper arraché, c'est clairement un des groupes qui va influencer le style crust. Tout le hardcore suédois va avoir un énorme impact dessus, évidemment. Mais voilà, un groupe comme Svartparad, clairement, là, les bases sont un petit peu jetées. Bombanfall, un tout petit peu après, en 87 aussi. Ça commence sérieusement à bouillir. Et puis bah, derrière, des groupes anglais comme Doom ou Extreme Noise Terror vont utiliser cette formule de hardcore suédois et la maximiser encore un petit peu plus. On peut très bien dire que Doom est un groupe de hardcore suédois en anglais, au final. Hein. Ça pourrait être tout à fait cohérent et ils ont fait beaucoup de reprises de groupes suédois, donc on rentre quand même vraiment dans cette catégorie. Svartparad, il y a une belle discographie qui est sortie il n'y a pas si longtemps sur FOAD, le label italien. Moi je suis assez fan. Alors en écouter 2 heures de suite, ça peut relever un petit peu de la gageure, mais voilà, il y a des gens qui l'ont fait. Derrière, groupe plus connu, Crude SS, Crude Society System, je crois que ça veut dire. Quelque chose comme ça. Groupe, là aussi, un culte, hein, un seul EP, hein, comme beaucoup des groupes qu'on va écouter. Il s'appelle Who Will Survive. Le groupe un peu, presque un peu trash, comme sur Sound of Disaster d'ailleurs. Il y a des petits passages plus lents au milieu de la chanson, des petits breaks un peu plus American hardcore. Voilà, puisque évidemment il y a le crossover qui arrive, et là ça commence un peu à gratouiller hein, sur la guitare de Crude SS. C'est pas du métal encore, mais voilà, on sent que ça commence, les deux mondes commencent un petit peu à flirter ensemble. Groupe super culte, le morceau c'est Force Values. Voilà, un groupe que j'aime beaucoup, j'aime bien le chant, je trouve ça accrocheur, il y a un côté hyper cru sur la batterie. Voilà, ça, pour moi c'est vraiment un groupe hyper classique qui s'était reformé il y a une dizaine d'années, que j'ai vu en 10 ans, en 2016. C'était assez rigolo, ils ont fait un concert, ma foi, tout à fait honnête. Puis ils ont pas existé encore longtemps, hein. Je crois que c'était plus un groupe qui s'est rendu compte qu'ils étaient assez célèbres, hein, et qui pouvaient peut-être utiliser cette célébrité posthume pour faire une petite tournée à l'œil. Et on a fini par Totalitaire, Totalitaire comme on dit en France, groupe sur la culte avec un grand C, groupe qui paradoxalement peut-être n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui, je pense. C'est un groupe assez paradoxal. Alors, j'utilise beaucoup le mot paradoxal, je sais pas si ça l'est vraiment, mais qui n'a pas énormément joué en vérité. Donc qui s'est formé dans les années 80, plutôt dans la deuxième partie des années 80. Le morceau qu'on a écouté, c'était Cannibal Erna, sorti sur le EP Multinational La Mordare de 87. Première démo est de 86, donc c'est un groupe deuxième génération déjà, hein, donc qui a sûrement beaucoup écouté, beaucoup poncé les Anti-Simex et Asocial et compagnie, avec des riffs de guitare un peu plus rock, un peu plus complexe, mais hyper agressif quand même, avec un son un peu plus clair. Voilà, c'est pour ça que le groupe est aussi apprécié, c'est le son un petit peu plus clair. Le chant très éraillé et des riffs à un poil plus compliqué. C'est sûrement le groupe de hardcore suédois le plus apprécié hein, aujourd'hui, le plus imité. Clairement, hein, des groupes qui essayent d'imiter Totalitaire, et il y en a plein, des plus ou moins bons, Délétard à Saint-Etienne, un très bon groupe, très bon exemple hein, pour le coup. Mais un groupe qui a peu joué Totalitaire, hein, au final, sur leur première, première existence. Assez peu de concerts, c'est surtout un groupe studio qui jouent très ponctuellement. Bon, là, cette année, ils en ont fait un concert. Ils en refont un en septembre, où j'irai. Je ne les ai jamais vus. Cela dit, malgré une discographie assez belle, hein, Totalitaire, quand même, il y a les années 90, ils ont sorti des bonnes choses. Voilà. Moi, d'ailleurs, à la base, pour moi, c'était plutôt un groupe des années 90. C'est plus qu'un peu plus tard que j'ai capté qu'ils avaient commencé plus tôt. dans les années 80. Mais voilà, quand moi j'ai commencé un peu à écouter du hardcore au début des années 2000, toutes ces scènes-là, pour moi c'était plutôt un groupe années 90, je ne savais pas qu'ils existaient d'avant. Et d'ailleurs, on peut très bien dire que leur période 90 est meilleure que leur période 80. Ce qui est, y a pas beaucoup de groupes à propos desquels on peut dire ça. Anticimex, on pourrait éventuellement le considérer, on pourrait, mais autrement non, clairement. Les groupes qui ont survécu aux années 80, en général, font des trucs un peu à chier. Totalitaire, c'est pas le cas. Alors, les membres de Totalitaire ont tous fait beaucoup de musique, le chanteur notamment, il a joué ensuite dans plein de groupes, enfin chanté dans plein de groupes, donc ils sont restés très actifs, hein, tous ces gens-là, surtout la version 90 du groupe. Voilà. Donc c'est même s'ils jouent pas très souvent Totalitaire, les gens qui les parties, les membres du groupe, eux font beaucoup de musique. Voilà, on a fini pour les années 80, on va entamer les années 90 avec une série de groupes qui maintient la flamme, hein, qui va rester un petit peu, ben, plus qu'un petit peu d'ailleurs dans la veine qu'on a écoutée, mais qui va aussi commencer à rendre des choses plus agressives, un peu plus lourdes. Il y a une évolution, on va en parler un petit peu. Les années 90, c'est quand même un tournant pour beaucoup de choses. C'est parti. Vous êtes toujours sur Liberté à 4.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Aujourd'hui, qui vous propose une rando dans les terres du hardcore suédois d'un point de vue diachronique. Nous voyons l'évolution et nous avons quitté les années 80 et atterri dans les années 90. Alors, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas un changement drastique d'approche esthétique sur ce style, qui est totalement consolidé, hein, puisque voilà, les quatre groupes qu'on a écoutés, hormis des productions un peu différentes, très différentes même, sur, par rapport à certains morceaux, voilà, le cahier des charges d'écriture est à peu près le même. Hein. Un rythme à la discharge, un peu plus rapide, quelqu'un qui crie, des morceaux courts, voilà, emballer c'est peser. Merci tout le monde et bonne nuit. Voilà, dans les années 90, donc le style hardcore suédois va continuer comme une espèce de base, hein, sur laquelle va pousser énormément de groupes, puisque les années 90, c'est l'explosion du 10-bit. Donc le 10-bit, c'est un style parent du hardcore suédois, mais qui est sur limitation stricte de discharge. Alors tout ça, c'est des petites nuances, hein, pour un non-initié, quelqu'un qui n'est pas dans la secte. Voilà, ça va être à peu près, ça va sonner comme étant exactement la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que la démarche n'est pas tout à fait la même. Il y a le crust qui va débouler aussi, qui encore une fois est un des parents du hardcore suédois. Mais donc en Suède, à cette époque-là, il n'y a jamais eu autant de groupes qui font du hardcore à la discharge, hein, si on voulait être assez basique. Il y en a plein. Plein qui se ressemblent tous beaucoup. Et donc ça va créer cette espèce de maelstrom de groupes. Et presque à la fin, c'est presque une parodie d'eux-mêmes, hein, puisque tous les groupes se ressemblent et personne n'essaie de faire des choses un petit peu différentes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Voilà, y avait quand même des groupes qui proposaient un peu autre chose. Bon, premier groupe qu'on a écouté, c'était Disconto. Disconto, qui pour moi est le meilleur exemple d'un groupe qui fait du hardcore 80 exactement pareil dans les années que dans les années 80. Voilà. Clairement, le début de Disconto, hein, le milieu des années 90, 93, 96, 97, en gros. Voilà. Disconto, on peut les placer dans les années 80, et on ne voit pas la différence. Production hyper crue, chant en suédois, voilà, c'est pas très produit du tout. Hein. Ça va vite, c'est hargneux, c'est, voilà. C'est pas métal pour un sou, parce que c'est quand même beaucoup le métal, hein, qu'on va voir arriver dans les années 90, dans le hardcore, hein, les deux groupes qu'on a, trois groupes même qu'on a écoutés par la suite, hein, ça pointe quand même clairement le bout de son nez. C'est l'explosion du death metal aussi en Suède, en parallèle, et les deux scènes sont très perméables dans les groupes de hardcore, crust, 10 bits, etc. Il y a beaucoup de métalleux, et à l'inverse, hein, voilà, il y a des punks dans les groupes de métal. Bon, la différence est très fine au final dans ces années-là. Et donc ça explique que beaucoup de groupes de hardcore suédois vont être un peu plus métalliques, tout simplement. Pour revenir à Discanto, le morceau qu'on a écouté s'appelait Roosting Industry, sorti en 1995 sur un split EP avec Frigura, groupe japonais qui chantait en suédois et qui essayait de faire du Mob 47. Ils sont forts, ces japonais. Groupe de Uppsala. Uppsala qui avait une super scène, c'est plus dans le nord de la Suède, Uppsala, qui avait une super scène dans les années 90, notamment avec quelqu'un comme Jan Juttila qui faisait le Ditact Studio. Alors, Ditact, ça veut dire 10 bits en suédois. Jan Juttila, c'était un batteur, voilà, donc c'est un peu l'expert mondial du 10 bits. Le studio existe toujours. Hein. Et donc il y avait aussi un label qui a joué dans This Machine, dans Dishonest, dans Times Square Preachers. Il y avait tout un tas de bons groupes à Uppsala, comme aussi Abuse, Cambridge, etc. C'est pas une grande ville pourtant, mais et tous ces groupes-là étaient très crus, restaient plutôt sur le côté hardcore de la chose et pas trop métal, trop produite. Hein. Voilà, pour eux, ça devait rester cru. C'est pas le cas du groupe suivant qu'on a écouté, Driller Killer. Alors, Driller Killer, groupe. Alors, pas toujours de très bon goût. C'est un groupe qui a existé longtemps, jusqu'à la fin des années 2000. On retrouvait le batteur d'Anticimex, Charlie, dedans. Quand Anticimex s'arrête, Charlie va fonder Driller Killer. Et le chanteur Jonsson va former Wolfpack. Wolfpack qu'on a écouté après. Donc, voilà, Driller Killer, alors, au niveau du son, c'est beaucoup plus gras. Là, on sent que c'est. L'idée, c'est de jouer aussi très très fort. Hein. Bon, l'album est super bien. Le morceau qu'on a écouté, c'est Who. C'est clairement un morceau de hardcore suédois d'une minute qui tabasse. Enfin, je trouve que c'est un super morceau. C'est tiré d'un LP qui s'appelle Brutalize, sorti en 1994 sur Distortion Records, qui était quand même le label iconique. Voilà, clairement, le label qui sortait tous les trucs de 10 bits, de crust, du hardcore suédois de l'époque, enfin pas tous, mais voilà. une grosse quantité, beaucoup, beaucoup de groupes sortaient des choses sur Distortion. Voilà, quand on voit la discographie, c'est pas un label qui a existé super longtemps, mais voilà, c'est quand même vraiment un poids lourd, label qui a été accusé de tout plein de choses. Il y avait un code barre sur un des CD, et à l'époque, ça avait fait apparemment un scandale dithyrambique. Voilà, Driller Killer qui va être un peu bovin avec le temps, c'est un bon groupe hein, mais qui va faire un truc un peu plus métal, un peu beauf par moment. Enfin, voilà, c'est un groupe je suis un peu partagé, je trouve que les deux premiers albums sont hyper cool mais il y a un côté un peu métalleux de mauvais goût par moment. Mais les deux premiers LP, voilà, Brutalize et Total Fucking Hate sont vraiment vraiment hyper bien. Et le premier là est super. Wolfpack derrière, alors là, c'est la continuité du dernier album d'Anticimex pour moi, mais avec une touche de metal suédois, death metal suédois, dans les mélodies à la guitare. Alors, il n'y a pas de trash, hein, c'est pas du metal dans ce sens-là, mais c'est très lourd, c'est très sombre. Surtout, c'est très désespéré, puis il y a quand même des mélodies à la guitare qu'on retrouve dans le death metal. Là, un groupe. Très très culte, hein, Wolfpack, qui existe encore avec d'autres membres et avec un autre nom, Wolf Brigade. Alors pourquoi ils ont dû changer de nom? C'est qu'à la fin des années 90, début 2000, ils se sont rendus compte qu'il y avait un groupuscule suédois néo-nazi qui avait le même nom, qui s'appelait Wolfpack. Et pour éviter toute confusion, ils ont préféré changer leur nom et s'appeler Wolf Brigade. Wolf Brigade qui existe encore, hein, qui a sorti, il continue à sortir des disques jusqu'à aujourd'hui. Bon, beaucoup de gens, les aficionados, sont quand même très fans de la période Wolfpack, qui est vraiment super cool. Hein. Les trois albums qu'ils ont fait sont super bien. Le morceau qu'on a testé, Wave of Fear, c'est tiré du LP New Dawn Fade, sorti également sur Distortion en 96, et donc c'est le même chanteur que Anticimex. Et pour l'anecdote, le morceau Wave of Fear avait existé déjà sous Anticimex. Il l'avait déjà enregistré sur une démo. Voilà, on le trouve sur le LP démo. Alors j'ai plus la date exacte, mais les versions sont très similaires. Et voilà, au niveau du son, c'est quand même plus lourd. C'est moins hardcore teenager à fond la caisse. Voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus maîtrisé. Bon, c'est vraiment un super album. Derrière, on a eu Huit System, Skid System, système de merde, si on voulait le traduire. Là aussi, groupe bien connu, à la lisière entre le crust et le hardcore suédois et le keng. Hein. Le morceau qu'on a écouté, c'était Civil Salad. C'est un groupe qui s'est formé avec des membres de Dispense, qui était plutôt groupe de 10 bits, époque années 90, distorsion, voilà. Sachant que beaucoup de gens jouaient dans plusieurs groupes à l'époque, hein, c'était pas... Les Suédois, en général, ils ont rarement un seul groupe, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, ils ont joué, voilà. Il y a certains CV complètement hallucinants, hein, qu'on voit sur des gens qui jouent dans des groupes, des guitaristes qui vont jouer dans 15 groupes, quoi. Donc on demande débile, du même style, hein, 15 groupes du même style, hein, en règle générale. Hein. Voilà, c'est assez foufou. Ce qui est système avait des membres de Dispense et avait au chant quelqu'un qui s'appelait Thomas, qui est décédé l'année dernière et qui chantait dans At the Gates également. At the Gates, qui est un groupe de death metal suédois hyper culte, assez connu, hein, qui fait de grosses scènes, enfin, qui faisait des grosses scènes. Voilà, donc Tompa, hein, c'est son surnom, qui a également joué dans Disphere, au chant d'ailleurs, voilà, qui est décédé l'année dernière. Le morceau qu'on a écouté, Civiliserat, donc là avec un son assez distordu sur la guitare, assez crade, qui rappelle un peu le death metal, hein, je trouve, mais crade, hein, le death metal avec des pédales rouillées, des choses comme ça. Un bon groupe que célèbre pour des mauvaises raisons parfois. Morceau qu'on a écouté, donc il est tiré d'un split EP avec Wolfpack, voilà. De 98, le groupe a dû commencer vers 94, quelque chose comme ça. Et il existe toujours, ils se sont reformés. Alors il y avait eu une période où ils avaient arrêté de jouer, puisqu'ils s'étaient battus sur scène, voilà, en festival en Pologne. C'est une anecdote, bon, je n'étais pas là, donc il faudrait un témoin direct. Mais voilà, ils s'étaient battus, c'est filmé. Hein. Voilà, pour une raison stupide de speed, voilà, il n'y avait pas de speed. Et bah du coup, ils n'arrivaient pas à jouer ensemble. Bah, les trois membres jouaient des morceaux complètement différents. Ils se regardaient comme des abrutis. C'était un gros concert, hein, c'était un festival. Et y en a l'un des deux qui jette son instrument, qui se barre. Et le batteur s'est dit « No speed, no punk. What can I say ?» Voilà, plutôt rigolo. La légende. Alors maintenant, le groupe Henry, ils vendent même des t-shirts « No speed, no punk ». Bon, voilà. Il faut avoir le sens de l'humour dans la vie. On va enchaîner avec les années 2000, hein, parce qu'on a plein de choses encore à voir, je pense pas qu'on aura le temps de tout faire, mais les années 2000, où là, ben, peu à peu, la rigidité un petit peu des années 80 et 90, où finalement on restait quand même sur des formules très similaires, même si la production pouvait changer un petit peu entre un Disconto et un Wolfpack, évidemment, ou un Driller Killer. Voilà, on restait un peu quand même toujours sur des choses assez similaires, et les années 2000, ça va s'éclater un petit peu. Mais il y avait quand même toujours un certain nombre de groupes qui vont rester fidèles. Bon, on en parle un petit peu après, et on va commencer par Crickshot. I'm Vous êtes toujours sur Libertaire 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Aujourd'hui, une émission consacrée au hardcore suédois à travers les âges. On a fait les années 80, on a fait les années 90, place aux années 2000, donc la folie des années 90 en Suède est un peu passée. Quand même, hein, et tout l'Empire Distortion Records et les dizaines de groupes de 10 bits qui sonnent pareil sont pas morts et enterrés, mais voilà, il y en a quand même, il y en a moins. Alors, il y a des groupes qui perdurent, hein, comme Avskum, qui sont apparemment un peu immortels, mais aussi, c'est aussi les années néo-crust où voilà, le post-hardcore arrive très très fort aussi en termes de mélange sur la scène hardcore. Il y a plein de choses, des nouveaux styles presque qui apparaissent, des sous-styles de sous-styles, enfin. Voilà, les années 2000, c'est un peu l'éclatement. Donc, assez peu de groupes en Suède, paradoxalement, continuent à faire du hardcore suédois typique, hein, un peu très très classique. Des groupes de crust, il y en a encore beaucoup. Un groupe comme Uncurbed, d'ailleurs, est très proche finalement des groupes suédois. J'aurais presque pu en prendre un pour un peu pour l'émission. Uncurbed, qui est un groupe des années 90, mais qui poursuit un petit peu en 2000. Mais même dans les années 2000, ils sont quand même clairement en perte de vitesse. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Et le morceau, donc, le premier groupe qu'on appelait, c'est Crickshot. Après Crickshot, c'est un groupe qui existe entre 98 et 2002. Là, on a écouté un extrait de leur album de 2001 qui s'appelle Olebro Mangel. Donc, Mangel, c'était un des noms du hardcore suédois, un de ses petits noms. Hein, c'est le Mephistopheles, c'est Keng, c'est Belzébuth, si on veut. Donc, groupe de Orebro avec un Polonais au chant, mais qui chantait en suédois, qui est décédé pendant le tsunami en Indonésie de 2005 ou 2006, je ne sais plus. Il y a un petit moment déjà, qui jouait dans Nazum. Il y avait deux membres de Nazum, hein, dans Crickshot. Nazum, c'est un groupe de grindcore suédois culte, hein, clairement plutôt grindcore moderne, que j'avais le plaisir de voir, c'était super bien. Crickshot, c'est pas du tout le même projet, parce que outre ces deux membres de Nazum, on trouve Yalo qui a joué dans Disfear, Dischange, No Security, Totalitar, voilà, qui a un CV complètement débile. Il a joué dans à peu près tous les meilleurs groupes du monde en Suède. Donc c'est vraiment un projet plus hardcore old school. Crickshot, c'est le nom d'une chanson de Mob 47. Et le projet de Crickshot, c'est jouer du Mob 47 plus vite et un peu plus abrasif. Alors ça marche pas forcément sur tout le long de l'album, mais voilà, quand ça marche, par contre, je trouve ça vraiment cool. Là, c'est un des morceaux où je trouve que ça colle bien, le côté complètement ultra rapide. Le morceau, c'est Denna Yavla Technik, et donc c'est tiré d'un LP de 2002 qui était sorti sur Sound Pollution, label américain, qui sortait pas mal de fastcore, hardcore rapide, genre de trucs bien vénère en règle générale. Voilà, sachant que ça a été réédité, il me semble, les deux albums de Crickshot ont été réédités l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a eu Victims, là aussi un groupe qui s'est formé à la fin des années 90, mais qui a joué un petit moment, jusque dans les débuts des années 2010, je pense que j'avais vu 2005 ou 2006, qui est dans ces eaux-là. Ça ne m'avait pas laissé une impression incroyable. Les débuts sont très bien, Les débuts sont cool. J'ai réécouté récemment, c'est pas mal. Mélange de hardcore suédois assez classique, un peu produit. Voilà, ça n'est pas sur du truc cru de salle de répète, mais pas trop produit. Voilà, c'est pas ultra metal au galop, etc. Il y a des membres de Dispense dedans. C'est en faisant la recherche aujourd'hui, je me suis rendu compte. Je ne savais pas. Et quelqu'un de Nazum, donc il y a une connexion aussi avec Crickshot qu'on a écouté juste avant. Victims, ils oscillaient entre le hardcore suédois assez classique, donc dischargien rapide, vraiment comme les groupes des années 80, et des morceaux beaucoup plus rock'n'roll, mid-tempo. Voilà, le rock'n'roll, c'est hyper populaire en Suède, moi j'en écoute pas vraiment. Mais voilà, des trucs qui rockent à fond, il y a quand même une grosse passerelle entre des groupes un peu, peut-être pas à la Motorhead, mais des groupes comme Turbo Negro, où ça envoie vraiment, on est là pour faire le rock, et du hardcore suédois, où ça peut bien coller avec des solos dans tous les sens. Enfin, en tout cas, c'est un groupe assez fun à voir. Le premier album, là, dont on écoutait un extrait, qui s'appelle Falsta, l'album s'appelle Never Ending Lasting, il est pas mal du tout. Le groupe, j'ai pas trop écouté ce qu'ils ont fait sur la fin de leur carrière, entre guillemets. Mais derrière, ils avaient sorti un split LP, avec From Ashes Rise, groupe de hardcore ricain très à la mode dans les années 2000. Oh, c'est un des gros noms du hardcore qui avait un peu un peu inventé. Les gens disent que c'est du néo-crust, ce n'est pas du néo-crust. Mais voilà, qui a eu une influence en tout cas sur cette vague-là. Ensuite, par contre, on est passé sur un truc véritablement de cave et un truc véritablement des années 2000. Alors, autant il y a toute une vague néo-crust dans les années 2000 qui est assez propre, hein, ou un peu émo, voilà, il y a plein de trucs qui se mélangent avec des très bons groupes par ailleurs. Hein. Mais voilà, le côté primitif, 10 bits, hardcore suédois, est un peu absent. Et là, il y a War Victims qui arrive, qui se forme en 2006 et... groupe, alors je ne sais pas s'ils ont beaucoup joué en live, je ne suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas très prolifique en disque, avec des membres de Human Waste et de Dutch Dumb, notamment, qui étaient des groupes plutôt de crust, Scandi crust, voilà, droit devant. Quand je dis Scandi crust, c'est un mélange de crust et de hardcore suédois en gros. Et voilà, donc War Victims, car là, clairement, quand on écoute ça, on croirait un petit peu entendre Svart Parade des années 80. Morceau, c'est Napalm Regn, tiré d'une démo CD1 qui s'appelle Death is Inevitable, et le groupe va sortir beaucoup de disques, des bien meilleurs que ça, hein, parce que ça c'est quand même pas, c'était pas extraordinaire, mais je voulais placer un morceau de War Victims quand même, parce que c'est un groupe des années 2000, de la deuxième partie, qui a quand même marqué, qui a marqué son époque, voilà, de par le côté à l'ancienne, sans fioritures, très cru, pas toujours extraordinaire, mais il y a quelques bons disques, hein, vrais bons disques par contre de War Victims. Je pense au split avec Drop End de 2013. Il y a un EP qui est très chouette aussi, hein, où ils ont un son un peu plus distordu. Et dans War Victims, on va trouver la personne qui va fonder Ditact et Rapunk, label toujours en activité, très en activité même, qui va sortir énormément de classiques du style à partir du milieu des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quand on voit tout ce qu'ils ont sorti, à la fois en groupe suédois et internationaux, le label est quand même hyper cool. Donc il joue dans War Victims et dans Paranoid, voilà, qu'on va passer un petit peu après. Donc malgré tout, un groupe important, je pense, War Victims. Et aussi parce que tous les membres du groupe ont fait d'autres trucs derrière, ou sont passés dans War Victims. Enfin, voilà, c'est un peu un groupe pivot. Et on a fini par un groupe un peu fun. Voilà, c'est Skid Kids, enfin Huit Kids, les kids de merde, groupe de Malmö, avec des futurs membres de Inferno et des anciens membres de Scum Brigade. Scum Brigade qui était un groupe assez sérieux, hein, un peu grind, crust, face, anarcho, assez cool mais très rapide, plutôt assez blast, enfin, qui partait un peu en tous les sens mais que j'aime bien. Et voilà, ils forment Skid Kids. Skid Kids, c'est influencé Totalitar, comme le groupe qu'on a écouté, voilà, qui est très influent aujourd'hui. Et Skid Kids, c'est un des premiers groupes à avoir un peu repris le son de Totalitar dans le monde moderne, en quelque sorte. Et des gens passés dans Skid Kids derrière vont faire pas mal de groupes à la Totalitar qui vont avoir beaucoup de succès. Quand je dis beaucoup de succès, c'est qu'ils ont bien vendu au moins 300 disques, quoi. Dans le punk DIY, c'est ça, avoir beaucoup de succès. Et ils ont fait des tournées. Voilà. Donc c'est un groupe qui a eu son importance. Le morceau qu'on a écouté, c'est Kanvapenkuk. C'était tiré d'une démo qui s'appelle Huit Fucked by the States, sortie en 2002. J'ai la réédition de 2003 en vinyle. C'est assez cool, c'est assez cru. Je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. C'est un enregistrement qui est assez fun. Et voilà, c'est vrai que c'est dans un style qui n'a pas beaucoup de fun. Skid Kids, c'était quand même une bouffée d'air frais, en quelque sorte. Et surtout, ça présageait pas mal de tous les groupes à la Totalitar, entre guillemets, comme on appelle ça, qui vont jalonner les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui. Hein, les groupes comme Inferno, Larma, Eratis, Stress SS, etc. etc. Voilà. On va partir sur les années 2010 avec un groupe suédois, mais qui chante en japonais, parce que pourquoi pas. Mais ça reste du hardcore suédois. C'est parti. Vous êtes toujours sur Alberter 80.4, c'est l'émission Détruire l'ennui, une belle épopée, une odyssée du hardcore suédois, alias Keng, alias Mangle, alias Scandicore, alias créer ton propre style, mais en suédois. On a attaqué les années 2010, alors, depuis les années 2010, et bon, même si 2010 c'est il y a plus de 15 ans. Voilà, le continuum, pour moi, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, les choses ne sont pas tellement évoluées. Comment ça... Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes d'impact au niveau de la création, on est dès la décennie des années 2010, c'est la prévalence des réseaux sociaux dans l'écriture de la musique, où voilà, d'un seul coup, tout circule hyper facilement, de façon très très fluide, et même les styles les plus obscurs deviennent accessibles en un claquement de doigts. Donc voilà, tous ces groupes un peu récents, quand bien même ils seraient un peu... il y aura des anciens, hein, des vieux de la vieille en leur sein, ils participent quand même de toute cette nouvelle dynamique qui est complètement la nouvelle donne aujourd'hui. Hein, là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et la popularité d'un groupe comme Totalitar s'explique beaucoup par cette espèce d'effet boule de neige qui est lié un peu à la caisse de résonance Internet, selon moi. Autant là, des groupes comme Anticimex n'ont jamais été aussi cultes en tous les coins du monde de par la diffusion et le scope qu'offre la toile, évidemment, et ça c'est très bien. Toutefois, c'est vrai qu'en un claquement de doigts, on peut découvrir la discographie totale de tous les groupes suédois les plus obscurs, et en un mois, on peut avoir, alors elle télécharge même plus maintenant, c'est même plus besoin, on peut avoir streamé tout ce qui a été fait, et donc débouler avec une espèce de fausse expertise. Alors, ça n'explique pas tous ces groupes, mais voilà, l'engouement ou le regain de popularité de certains de ces groupes peut éventuellement avoir un lien avec ça. Et je dis ça avec beaucoup d'amour pour Totalitar, bien entendu. Je suis parti un peu loin. On a écouté Paranoid en premier. Paranoid, donc groupe qui chantait, alors, ne chante plus, je crois, en japonais à leur début. Donc dans Paranoid, on trouve une personne d'Itac Terrapunk que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Et leur grand délire, c'était d'essayer de mélanger un peu la distorsion japonaise au hardcore suédois beaucoup plus classique. Et dans l'exécution, on est tout à fait sur ces bases-là. J'aime pas tout ce qu'ils ont fait. Avec le temps, ils ont parti dans un délire un peu plus à la Venom, un peu pré-black metal. Je trouve que ça ne marche pas toujours. Enfin voilà, ça ne me parle pas des masses. Mais là, l'extrait du premier album de 2015, qui s'appelle Satyagraha, il marche très bien. Il a été réédité récemment, donc j'ai pu le choper. J'étais un peu passé à côté à l'époque. Ça marche bien. Paranoid, qui avait tourné avec Mob 47 à Paris, d'ailleurs. Le morceau qu'on a écouté, c'était Konzenaru Seichi Kankai. Voilà. Et c'est un bon morceau, un bon disque, formé en 2012, hein, Paranoid, mais ils continuent un peu leur petit bonhomme de chemin, et c'est devenu un peu une référence hein, du style, hein, sans hésiter. Derrière, un groupe qui clairement fait la jonction entre l'ancienne et la nouvelle époque, c'est Erratis, qui remet au goût du jour, avec une hargne assez dure à imiter, le son de Totalitar. Donc Skid Kids avait déjà quand même pas mal jeté les bases et peu à peu avait évolué vers un truc un petit peu plus rock'n'roll que j'aimais moins. Erratis, ça rock, mais c'est pas du rock'n'roll, ça va à 2000 à l'heure, c'est cru, la guitare a un son très très clair. Et clairement, ils rendent cool le style, le Keng à la Totalitar, hein. Clairement. C'est un super disque, moche. Le morceau qu'on a écouté, c'était Clire, Clire, Clire. Pour la petite anecdote, enfin, une grosse anecdote, c'est pas vraiment une anecdote d'ailleurs, le groupe chante en finlandais. Voilà, le chanteur était finlandais, en tout cas il parlait finlandais, les deux pays étant voisins, donc ça rajoute une petite touche de quelque chose, parce que le style est hyper suédois, mais avec un chant ultra agressif en finlandais, ça marche très très bien, super disque, voilà. Hyper, là pour le coup, un disque où on retrouve cette espèce de hargne adolescente alors que les membres sont quand même plus vraiment des adolescents en 2010, ça marche super bien. Et on trouve au sein des Ratisse des membres de Skid Kids et Scum Brigade, voilà, donc, qui avaient déjà un peu posé les bases de ça. Et plus tard, les gens de Ratisse vont faire plein d'autres choses dans la même veine, Catastrophe, Institution, voilà, encore des groupes totalitar-like, comme on pourrait dire. Derrière, on a eu les excellents Inferneux de Malmö et un extrait de leur première EP de 2013 qui s'appelle Vitiraya Inferno, qu'on devrait voir d'ailleurs avec Totalitar ou le jour d'avant Totalitar en Suède en septembre. Ils avaient joué à Paris en 2015, mais ils avaient joué tellement fort que c'était de la bouillie sonore incompréhensible. Voilà, donc je vois pas trop l'intérêt de venir jusqu'ici pour faire un... Bref. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'avais été un petit peu déçu. Alors là, on est sur en tout cas un peu plus lourd, un peu plus gras, mais sur des bases voilà, de hardcore suédois où on peut danser le poing levé. C'était bon, les disques sont très très bien. J'en attendais un petit peu plus en live, mais voilà, des gens qui ont joué dans Erratis également, Fifan et Larma, qui est le groupe d'après qu'on a écouté. Où là, on retrouve comme dans Erratis, un son très clair à la guitare. C'est tiré de leur LP de 2019 qui est récent hein, qui s'appelle, alors le morceau c'est Mänsklighetens Mästare, voilà, j'ai sûrement prononcé ça comme un gros caca, sorti sur Adult Crash, label local. En live apparemment c'est super, mais voilà, en disque je suis pas totalement convaincu par Larma, mais c'est un des groupes du style qui marche le mieux, qui est le plus convaincant apparemment sur scène, et je sais que beaucoup de gens apprécie, et au niveau du style, on est quand même clairement sur du Totalitar Love à fond les ballons. Voilà, donc voilà, c'est quasiment devenu un style, un sous-style du style, hein, le hardcore suédois à la Totalitar, comme on dit. Mais il y a des groupes qui continuent à faire des trucs plus à la anti-SAMX, des choses un peu plus classiques et un peu moins rock. Et bon, de toute façon, là, on va se quitter. Mais avant qu'on se quitte, je tenais quand même à passer quelques petits morceaux pour que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Donc on va écouter Guffir, qui était une des claques de 2022, un des meilleurs albums que j'avais pas du tout vu venir, un groupe de hardcore suédois hyper bien, hyper agressif, avec une production de ouf. C'est la production qui fait tout, hein, les morceaux sont classiques, mais ça a une patate de maboule. Le morceau c'est Tömd et Bortglömd, voilà. D'ailleurs, on va voir un morceau d'Afskum, groupe formé en 82, qui a jamais vraiment arrêté. Il y a eu des petites pauses, mais ils ont toujours continué à enregistrer chaque décennie. Groupe super, hein, j'adore le chant de ce groupe, hein, à la fois cru, crié, mais il y a toujours une mélodie qui ressort, quelque chose voilà, qui chantait un petit peu. Je trouve ça vraiment super. Ils ont sorti un album il y a deux ans déjà, qui est très bien, qui est convaincant, que voilà, du hardcore suédois, tout ce qu'il y a de plus classique, sans surprise, mais c'est bien fait. Et c'est fait avec sincérité, et ça c'est quand même le plus important. Le morceau qu'on va écouter, c'est Knarkare Ur Starkare, tiré d'un LP qui s'appelle En annan värld är möjlig, c'est-à-dire un autre monde est possible. Voilà, ça c'est plus facile à prononcer. Derrière, un petit morceau de Nakasaki, groupe de Stockholm, dont je ne sais pas grand-chose. Tout nouveau groupe, extrait de leur LP de 2025. Classique, super bien fait, grosse production. Voilà, rien à dire, c'est old school, ça tabasse. Voilà, c'est un bon groupe, à voir ce qu'ils ont sous la pédale, s'ils peuvent. Il y a un bon album peut-être au tournant. Et puis on va finir par Zwavel Dioxide, groupe qui existe depuis un petit moment maintenant, depuis peut-être une dizaine d'années ou pas loin, peut-être un peu plus même. Hyper prolifique, hein, ils sortent des disques, 3 disques tous les ans. J'en passe souvent, c'est du hardcore suédois, un petit peu à la Skid System, Wolfpack, très lourd comme ça, Bomb and Fall, enfin, quelque chose d'un un peu caverneux, mais ça marche souvent bien, un peu métal par moment. Voilà, je trouve que c'est un des très bons groupes du style, en tout cas un des plus actifs, donc c'est bien d'en passer un petit morceau. Et puis derrière, eh bien, vous allez pouvoir vous reposer, et qui sait, peut-être prendre des petits cours de suédois pour pouvoir chanter en chœur avec toutes ces bien jolies choses. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Salut !